Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 18e dimanche. Jésus se retire de là en barque vers un lieu désert, à l'écart. L'ayant appris, depuis les villes, les foules le suivent à pied. En sortant, il voit une foule nombreuse, et il est ému jusqu'aux entrailles pour eux. Il guérit leurs infirmes. Le soir étant venu, les disciples viennent à lui et lui disent
« Le lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules pour qu'elles s'en aillent dans les villages, s'acheter de la nourriture. »
Il leur dit
« Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. »
Ils lui disent
« Nous n'avons pas ici, si ce n'est 5 pains et 2 poissons. »
Il dit
« Apportez-les-moi ici. »
Ayant ordonné aux foules de s'étendre sur l'herbe, prenant les 5 pains et les 2 poissons, ayant levé les yeux vers le ciel, il rend grâce. Et ayant rompu, il donne les pains aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangent tous et sont rassasiés. Ils emportent les surplus des parts, 12 paniers pleins. Ceux qui ont mangé sont environ 5 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Aussitôt, il contraint les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il congédie les foules. Ayant congédié les foules, il monte sur la montagne à l'écart pour prier. Le soir étant venu, il est là, seul.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. La multiplication des pains. Voilà un récit bien connu, trop peut-être, car nous risquons de savoir ce qu'il veut dire avant de l'avoir vraiment écouté, et donc de passer à côté de ce qu'il veut nous dire aujourd'hui.
Oui, pour que l'Évangile soit vraiment nourrissant, il faudrait sans doute que chaque fois nous l'écoutions comme si c'était la première fois. C'est en effet maintenant, au moment où je l'écoute, que Jésus me parle, et qu'il veut me nourrir de sa parole. Mais il y a aussi un autre obstacle à l'écoute de l'Évangile. Cet obstacle, c'est l'aspect merveilleux des récits. Le merveilleux, l'extraordinaire de l'Évangile peut nous faire passer à côté du message, et cela de deux façons. La première, c'est que le merveilleux retienne tellement notre attention qu'on s'y arrête et qu'on demeure alors à la superficie de l'enseignement, au niveau des détails extraordinaires, et on ne voit pas l'essentiel. Ainsi, on va s'arrêter à la multiplication des pains. Or, ce mot n'est même pas employé dans le récit, et la distribution des pains ne nous est pratiquement pas décrite. On l'évoque très brièvement. Il donne les pains aux disciples et les disciples aux foules. Eh bien, cette brièveté, cette discrétion peut vouloir dire que le message important n'est pas dans la multiplication. La seconde façon de passer à côté du message est encore reliée au merveilleux, mais cette fois, on veut expliquer le merveilleux et le réduire à des explications rationnelles. On expliquera ainsi que Jésus a invité les gens au partage de leurs petites provisions et que grâce au partage, tous ont pu se rassasier. C'est vrai que cette expérience du partage est souvent faite dans des groupes où l'on organise des repas dits communautaires, chacun apporte quelque chose et en mettant tout en commun, chacun mange à sa faim et en général, il en reste même de surplus. Mais est-ce que l'on est vraiment là au cœur du récit en parlant de ce partage des provisions de chacun? On peut en douter. Non, il faut écouter le récit tel qu'il est et chercher à comprendre les symboles qui s'y trouvent, tels que la Bible peut nous les expliquer, et en évitant de plaquer nos idées sur le texte. Mais en premier lieu, Retrouvons le contexte dans lequel se situe ce repas. Dans son chapitre 13, Matthieu a rapporté les paraboles de Jésus qui concernent le succès et l'échec de sa prédication. Sa vision du règne de Dieu se heurte d'abord à tous ceux qui refusent un Dieu qui n'est qu'amour, et à tous ceux qui attendent que Dieu agisse en juge tout-puissant et chasse les Romains. Matthieu vient de nous rappeler que Jésus a été rejeté par ses compatriotes de Nazareth. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa parenté. Jean le Baptiste, lui, vient d'être décapité par le roi Hérode. Hérode devait sans doute craindre que Jean ne soulève les foules autour d'un Messie, et les Romains qui occupent le pays n'auraient pas toléré cela. Alors c'est dans ce contexte que va se dérouler ce repas du pain multiplié. Le récit évangélique de Jean note d'ailleurs dans le parallèle, dans sa description du repas, un contexte semblable. On nous dit que le lendemain du repas, beaucoup de ses disciples vont abandonner Jésus et il va annoncer la trahison prochaine de Judas. Et c'est là même qu'il va poser aux 12 la question cruciale « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi partir ?»
Jésus, apprenant la mort de Jean, se retire dans un lieu désert.
Oui, probablement Jésus se retire pour réfléchir et prier comme à son habitude, mais peut-être aussi pressent-il que son sort risque d'être le même que celui de son cousin Jean le Baptiste. Que faire pour que son message passe et que ce message soit reçu comme la parole qui vient du Père? Et c'est là que les foules des pauvres et des malades viennent rejoindre Jésus. Et le récit va nous parler des émotions de Jésus devant ces foules qu'il poursuivent, des émotions qui sont des émotions de miséricorde, comme celles qu'une mère, un père peut éprouver dans ses entrailles lorsque ses enfants souffrent ou manquent de quelque chose. La miséricorde, c'est en effet ce fort sentiment d'amour qui nous fait partager la souffrance de ceux qu'on aime. Le récit parallèle de Marc va nous dire le pourquoi de cette émotion. Marc nous dit « parce que ces gens étaient comme des brebis qui n'ont pas de pasteur », c'est-à-dire comme des brebis qui n'ont personne pour les faire sortir de l'enclos et pour les conduire au pâturage où elles pourront paître et se nourrir. Ce qui veut dire que ces gens sont comme des gens sous-alimentés, des affamés, ou non pas d'abord de pain, mais de sens à leur vie, d'espérance, car les pasteurs d'Israël, les pharisiens, les rabbis de ce temps, ne donnait pas un enseignement qui était suffisamment vraiment nourrissant. Il ne mettait pas en contact avec un Dieu qui pouvait être le bon pasteur qui nourrit le cœur. Et c'est pour cela que Dieu veut être pour les siens. Nous le chantons régulièrement dans le psaume 22.
Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait coucher. Vers les eaux du repos, il me mène pour ranimer mon être.
L'émotion de Jésus se comprend en pensant à l'avenir. Est-ce qu'il saura faire comprendre que Dieu est amour à ce peuple qui a tellement besoin de se savoir aimé de Dieu? Leurs autres guides parlent de Dieu comme d'un juge dont il faut redouter la colère et le jugement. Oui, quand on a vécu de grandes souffrances, quand on n'a pas connu ce que c'est qu'être aimé, rencontrer Dieu comme un père et non pas comme un juge, cela peut faire toute la différence entre le désespoir et la résurrection. Bien des alcooliques, bien des narcomanes savent cela. Jusqu'où Jésus devra-t-il engager sa vie pour témoigner de l'amour du Père des cieux? Quel geste ultime d'amour sera-t-il amené à poser dans ce monde hostile qui l'entoure? Devra-t-il donner sa vie jusqu'à la mort comme Jean le Baptiste? Voilà les questions sans doute que se pose Jésus, et il se met à guérir ces gens de leur souffrance. Le récit de Luc ajoute qu'il leur donne une nourriture spirituelle, il leur parle du règne de Dieu. Et le récit parallèle de Jean donnera un long résumé de l'enseignement de Jésus, un enseignement qui se poursuivra le lendemain dans la synagogue de Capharnaüm. Le récit de Marc, lui, précise que Jésus enseigne beaucoup, longuement, tant et tant que le soir vient et que les gens n'ont pas mangé. Ce sont d'ailleurs les disciples qui font remarquer à Jésus la situation. L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie la foule pour qu'il s'en aille acheter de la nourriture. Mais Jésus va les inviter au contraire à donner à manger aux gens. On comprend mieux d'ailleurs cette invitation dans le récit parallèle de Marc, où les disciples reviennent tout juste de mission. Écoutons.
Les envoyés se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. » Il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et eux n'avaient même pas le temps de manger.
Oui, ils rapportent tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Alors Jésus, comme à son habitude, passe du plan matériel au plan spirituel. Il va inviter ses envoyés à donner eux-mêmes l'enseignement, à partager la parole divine qui nourrit. Alors ils lui répondent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Ces chiffres sont probablement symboliques. 5 pains rappellent peut-être les 5 livres de la Torah, de l'enseignement divin, de la règle de vie de Dieu. Alors, comme dans tout repas juif, Jésus va bénir le Père divin, de ses dons. Il va le remercier, partager et donner ce pain aux disciples, et les disciples donnent aux foules. Les voici engagés à servir leurs frères, à les nourrir, comme des bons pasteurs. Et tous vont être rassasiés, et il restera 12 paniers du surplus des morceaux, 12 comme autant de disciples qui ont distribué le pain et l'enseignement.
Qu'est-ce que ce repas pouvait évoquer dans l'esprit des gens?
Dans la tradition de la Bible, tout repas est sacré. Il évoque la communion entre Dieu et ceux qui sont attablés en son nom. Et c'est pourquoi le repas commence toujours par la bénédiction de Dieu. Avant de partager, on rend grâce à Dieu qui donne le pain, symbole de la vie. Cela rappelle que toute nourriture est un don de Dieu. Comme l'avait été la manne dans le désert de l'Exode, et qui a été vue comme un don de Dieu. À l'époque de Jésus, des traditions juives conservent cette espérance que lorsque le Messie viendra à son... la manne sera de nouveau donnée avec abondance. Traditionnellement d'ailleurs, le repas fait se rappeler l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette alliance qui se concrétise autour d'une règle à vivre. Et chaque fois qu'on célèbre ou qu'on commémore cette alliance dans ces repas juifs, on fait la lecture de ce que Dieu a dit et on mange devant Dieu en communion avec lui. Les prophètes ont exprimé souvent cette nécessité de revivre souvent l'alliance. Écoutons 3 extraits, d'abord de Jérémie, puis d'Isaïe et enfin d'Ézéchiel.
Des jours reviennent où je conclurai avec la communauté d'Israël une nouvelle alliance. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Écoutez-moi et mangez ce qui est bon pour vous. Écoutez-moi et vous aurez la vie. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au jour de ta jeunesse. J'établirai avec toi une alliance éternelle.
Voilà donc sans doute le message que l'on peut tirer de ce geste de Jésus, de ce repas. Par lui, Messie de Dieu, en lui, une nouvelle alliance va se faire, l'alliance ancienne va se renouveler. Et son enseignement va tracer les directives de la nouvelle alliance, comme les 10 grandes paroles données par Dieu à Moïse avaient tracé les directives de l'alliance avec Israël. C'est aussi sans doute ce qu'évoque le chiffre de 5 000 hommes. Cela rappelle l'assemblée du peuple de Dieu lors de l'Exode dans le désert.
Ces 10 paroles, le Seigneur les a dites à toute votre assemblée sur la montagne. Il n'y eut pas une parole de toutes celles que Moïse avait prescrites, dont Josué ne fit pas lecture à toute l'assemblée d'Israël.
Cette assemblée de 5 000 hommes réunis par Jésus est donc la préfiguration de l'assemblée de Jésus, qui prendra le titre d'église, car église vient d'un mot grec ecclésia, qui traduit l'hébreu kaal, qui était le mot par lequel on désignait l'assemblée du désert. Jésus rassemble autour de son évangile le peuple des fils et des filles de Dieu pour une alliance nouvelle et éternelle. Et l'enseignement donné par Jésus est non seulement le vrai pain de Dieu, mais bien plus, Jésus va être l'ami qui viendra vivre l'alliance avec chacun de ses disciples.
Ce message a-t-il été compris des foules?
Oui et non, ce serait sans doute la bonne réponse. Oui, si l'on en croit le récit de Jean. Écoutons Jean.
À la vue du signe qu'il venait de faire, ces gens se dirent, « Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir. » Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira dans la montagne, seul.
Oui, ainsi s'expliquerait la réaction de Jésus qui est décrite dans notre récit de Matthieu.
Jésus oblige les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Et lui monte dans la montagne pour prier seul.
À travers ce signe du repas, les foules ont saisi que Jésus veut renouer l'alliance avec Dieu, qu'il veut la renouveler autour de son évangile, et donc qu'il est bien l'envoyé du Père, le Messie. Et les foules veulent donc le consacrer roi Messie. Mais la réaction de Jésus montre qu'il ne sera pas le Messie que les foules attendent, un roi Messie comme les rois de ce monde qui promettent la libération et la richesse. La force de transformation que Jésus veut susciter se trouve à un autre niveau, celui de l'être profond, celui de la vie spirituelle. Ce que Dieu veut donner est un pain de liberté intérieure, une nourriture morale, un enseignement qui donne le sens profond de la vie. Sans doute, Jésus craint-il que les apôtres ne se laisse gagner par l'enthousiasme des foules et qu'il n'ait pas encore compris le sens véritable de sa mission. Aussi, il les presse de quitter la foule et de s'en aller.
Et nous, aujourd'hui, que devons-nous retenir de ce récit?
Alors, on l'a déjà dit, non pas les préoccupations du merveilleux, c'est-à-dire de se poser la question, cette multiplication, comment s'est-elle faite, comment cela s'est-il passé? Non, il faut aller plus en profondeur. Notre interrogation, c'est de savoir si la parole est pour nous une nourriture. Est-ce que je m'alimente de l'Évangile? Et il ne suffit certainement pas de l'entendre d'une façon plus ou moins distraite. Il faut le mâcher comme un bon pain, le mastiquer longuement pour en extraire toute la substance, pour le goûter et le savourer. Oui, ai-je faim de la nourriture que peut me donner Jésus? Sinon, c'est peut-être que je n'en connais pas le bon goût ou que je l'ai oublié. Nous poser la question, l'Évangile est-il le guide de notre vie? Pas seulement une réponse attendue ou exigée quand on est dans la détresse, mais la carte étudiée attentivement pour diriger mes pas, pour faire les bons choix, avant que cela ne aille trop mal parce que je me serais perdu et égaré. Se nourrir de l'Évangile nous situe en vérité dans notre relation avec Dieu. Mais il ne faudra pas s'attendre à une intervention fracassante de la part de Dieu, à vivre de fortes émotions. Car c'est dans le secret du cœur que Dieu parle. Il allume en notre esprit de petites lumières qui nous permettent de mieux comprendre telle personne, telle situation. Il faut lire l'Évangile comme la voix qu'on écoute. Et c'est une activité plus nécessaire que de se brosser les dents ou de prendre son petit déjeuner. Alors, quel temps lui consacrons-nous dans nos 24 heures quotidiennes? Certains vont dire, « Mais Dieu ne me parle pas, je ne l'entends pas. » Alors, cette impression est peut-être exacte, mais ça peut être parce que Dieu se fait silencieux, mais c'est aussi peut-être parce que je ne prends pas le temps de l'écouter, parce que je ne me donne pas les conditions de silence dans lesquelles je peux percevoir sa voix. Jésus me parle dans l'Évangile, mais ces paroles peuvent rester lettres mortes si je ne suis pas sur la bonne longueur d'onde. On peut prendre l'exemple d'un radio. S'il n'est pas sur la bonne fréquence, on n'entend pas le message. Et la bonne longueur d'onde pour écouter l'Évangile, c'est celle d'un cœur disposé à se laisser aimer, à se laisser enseigner, à se laisser conduire, guider. Pour être rassasié de la parole de Jésus, il faut non seulement l'entendre, mais l'écouter, c'est-à-dire la mettre en pratique. on ne comprend bien que ce qu'on fait et que ce qui nous fait vivre. On peut aussi retenir un deuxième enseignement de ce texte. Jésus donne le pain aux disciples pour qu'ils le donnent à la foule. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne serai vraiment nourri de l'Évangile que si je le partage avec d'autres. Je ne serai vraiment disciple de Jésus que si je donne sa parole à manger à mes frères et à mes sœurs. C'est la mission de tout chrétien de partager l'enseignement de Jésus, de communiquer son message. Oh, ne disons pas trop vite que nous ne sommes pas capables et que c'est la mission des prêtres. La parole d'un chrétien, d'une chrétienne laïque, sera peut-être plus écoutée que celle d'un prêtre. Car ce que dit le prêtre, il le dit parce que c'est sa job, pensent les gens. Regardons tout le bien qui se fait dans les mouvements marqués par le mode de vie des alcooliques anonymes. Oh, ce ne sont pas des spécialistes bardés de diplômes qui font des exposés savants. Ce sont des membres bien ordinaires qui livrent leur message. Ils partagent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Ils témoignent de ce qui les fait vivre. Les fondateurs du mouvement l'avaient bien discerné.
Dieu, dans sa sagesse, a choisi ce groupe d'hommes et de femmes comme dispensateurs de sa bonté. Dans ce choix, qui sera un sujet d'étonnement, il s'arrêtera non pas aux superbes, aux puissants, aux célèbres, à l'illustre. Il s'arrêtera aux petits, aux malades, aux malheureux. Il aurait fort bien pu nous dire « Vous n'êtes pas choisis à cause de vos talents exceptionnels. » Si j'avais voulu, pour cette mission, des gens instruits, j'aurais confié ce pouvoir aux médecins et aux savants. Si j'avais voulu des hommes éloquents, plusieurs auraient été impatients de répondre à l'appel. Vous avez été choisi parce que votre vaste expérience d'alcoolique vous a rendu ou devrait vous rendre sensible aux cris de détresse qui montent par toute la terre du cœur esselé des alcooliques.
Oui, mais moi je ne sais pas parler, disent en nous la peur et l'insécurité. Eh bien, c'est la réponse, effectivement, de la plupart des prophètes dans la Bible. C'est celle de Moïse.
Je n'ai pas la parole facile, on ne m'écoutera pas.
C'est celle de Jérémie.
Ah, Seigneur Dieu, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant comme un enfant.
Et Dieu lui répondra.
Je placerai mes paroles dans ta bouche.
Et Jésus dira à ses disciples.
Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. L'Esprit de votre Père parlera en vous.
C'est aussi le rôle des partages d'évangiles en petits groupes que de s'entraider à se nourrir de la parole de Jésus. Que de s'entraider à vivre vraiment le repas de Jésus, la multiplication des pains. Échanger sur ce que chacun a découvert est enrichissant, éclairant pour tous. Bien plus, partager ce que chacun essaie de vivre de l'Évangile, cela fortifie les autres. Oui, le partage d'Évangile est comme une multiplication du pain. Et Jésus nous a dit, « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Au Québec, nous serons de plus en plus invités à partager l'Évangile avec d'autres. Le défi dans ces partages est de savoir harmoniser à la fois une bonne compréhension du texte et la mise en lumière de notre vécu quotidien. Le partage d'Évangile est un moment de ressourcement, un moment de dynamite spirituelle qui nous motive à changer des choses dans notre vie personnelle et à nous solidariser avec les gens démunis qui nous sont proches. Et enfin, dernière leçon de ce repas, le message ne se transmet pas seulement et d'abord par la parole. Nos gestes quotidiens sont porteurs de paroles non dites. Un regard, un sourire, une attention peuvent changer le cours d'une vie. Ils peuvent dire « Toi aussi tu es aimable » à celui qui a toujours douté de l'amour d'autrui. Ils peuvent arrêter le geste désespéré de celui qui veut se suicider par trop de souffrance. Ils peuvent apporter la paix à celle qui se détruit par trop de culpabilité. Oh oui, c'est très concrètement que nous avons besoin du pain pour vivre, du pain de la table, du pain de la chaleur humaine, du pain de la justice, de la dignité, de la considération, de la liberté, du respect, de la tendresse. Relisons ce que dit un employé du chic Resto Pop.
Voilà ce qu'on m'a apporté le chic Resto Pop. Un lieu où je me sens utile, apprécié. Un lieu où non seulement mes capacités sont reconnues, mais où elles ont l'occasion de se développer. Un endroit où je fais l'apprentissage du sens de responsabilité. Un espace où mes expériences antérieures me donnent beaucoup de crédibilité pour aider ceux et celles qui passent par là où je suis passé.
Oui, nos actes tout simples peuvent témoigner de cet amour vrai que nous vivons, et que nous vivons non par nos seules forces, mais par Jésus et avec lui. Un amour qui nous fait porter attention et tendresse à ceux qui nous entourent, qui nous rend capables de pardon, même quand cela peut sembler impossible. À chacun, chacune, il appartient de trouver sa façon de partager des paroles qui font vivre. Tous, nous avons quelque chose à donner, quelque chose à recevoir. Tous, nous pouvons apporter les 5 pains qui deviendront des forces de vie éternelle. L'amour véritable, celui d'aimer gratuitement et sans condition, peut nous sembler impossible. Jésus, lui, nous a rappelé que ce qui peut paraître impossible à l'être humain est possible dans la communion avec Dieu. Nous sommes disciples de cet homme, Jésus, qui a vécu en perfection l'amour et qui nous affirme qu'il l'a vécu par et avec Dieu. Témoigner de Dieu, ce n'est pas accomplir des actions surnaturelles, miraculeuses, en ce qu'elles dépassent les limites physiques, c'est témoigner de la possibilité d'aimer sans égoïsme, d'aimer jusqu'au pardon. Les gestes d'amour vrais sont des gestes humano-divins. L'être humain, lorsqu'il aime en vérité, témoigne de la gloire de Dieu.
C'était du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez nous trouver sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous les renseignements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.